Cependant, leur ami était un drôle d'homme, plein de défauts. Il eut soin de les rappeler. Elle en convenait. « N'importe, on l'aime tout de même, ce chameau-là. »«
Encore, maintenant ?»
dit Frédéric. Elle se mit à rougir, moitié riante, moitié fâchée. « Et non, c'est de l'histoire ancienne. Je ne te cache rien. Quand même cela serait, lui, c'est différent. D'ailleurs, je ne te trouve pas gentil pour ta victime. »
« Ma victime ?»
Rosanette lui prit le menton.
« Sans doute. »
Et s'essayant à la manière des nourrices,
« Avons pas toujours été bien sages ? Avons fait dodo avec sa femme ?»«
Moi, jamais de la vie. » Rosanette sourit. Il fut blessé de son sourire, preuve d'indifférence, crut-il. Mais elle reprit doucement et avec un de ces regards qui implorent le mensonge.
« Bien sûr. »
« Certainement. » Frédéric jura sa parole d'honneur qu'il n'avait jamais pensé à Madame Arnoux, étant trop amoureux d'une autre.
« De qui donc ?»«
Mais de vous, ma toute belle. »« Ah, ne te moque pas de moi. » « Tu m'agaces. » Il jugea prudent d'inventer une histoire, une passion. Il trouva des détails circonstanciés. Cette personne, du reste, l'avait rendu fort malheureux. « Décidément, tu n'as pas de chance, » dit Rosanette.
« Oh, peut-être. »
Voulant faire entendre par là plusieurs bonnes fortunes, afin de donner de lui meilleure opinion, de même que Rosanette n'avouait pas tous ses amants pour qu'il l'estimât davantage, car, au milieu des confidences les plus intimes, il y a toujours des restrictions, par fausse honte, délicatesse, pitié. On découvre chez l'autre ou dans soi-même des précipices ou des fanges qui empêchent de poursuivre. On sent d'ailleurs que l'on ne serait pas compris. Il est difficile d'exprimer exactement quoi que ce soit. Aussi, les unions complètes sont rares. La pauvre maréchale n'en avait jamais connu de meilleur. Souvent, quand elle considérait Frédéric, des larmes lui arrivaient aux paupières. Puis elle levait les yeux, ou les projetait vers l'horizon, comme si elle avait aperçu quelque grande aurore, des perspectives de félicité sans bornes. Enfin, un jour, elle avoua qu'elle souhaitait faire dire une messe, pour que ça porte bonheur à notre amour. D'où venait donc qu'elle lui avait résisté pendant si longtemps? Elle n'en savait rien elle-même. Il renouvela plusieurs fois sa question, et elle répondait en le serrant dans ses bras. « C'est que j'avais peur de t'aimer trop, mon chéri. » Le dimanche matin, Frédéric lut dans un journal, sur une liste de blessés, le nom de Dussardier. Il jeta un cri et, montrant le papier à Rosanette, déclara qu'il allait partir immédiatement. « Pourquoi faire ?»«
Mais pour le voir, le soigner. »«
Tu ne vas pas me laisser seul, j'imagine. Viens avec moi. »«
Ah, que j'aille me fourrer dans une bagarre pareille, merci bien. »«
Cependant, je ne peux pas...
Ta ta ta, comme si on manquait d'infirmiers dans les hôpitaux. » »«
Et puis... » Qu'est-ce que ça leur gardait encore, celui-là? Chacun pour soi. » Il fut indigné de cet égoïsme, et il se reprocha de n'être pas là-bas avec les autres. Tant d'indifférence au malheur de la patrie avait quelque chose de mesquin et de bourgeois. Son amour lui pesa tout à coup comme un crime. Ils se boudèrent pendant une heure. Puis, elle le supplia d'attendre, de ne pas s'exposer.
« Si par hasard, on te tue ?
Eh, je n'aurais fait que mon devoir. » Rosanette bondit. D'abord, son devoir était de l'aimer.
C'est qu'il ne voulait plus d'elle, sans doute. Ça n'avait pas le sens commun. Quelle idée, mon Dieu!
Frédéric sonna pour avoir la note. Mais il n'était pas facile de s'en retourner à Paris. La voiture des messageries Le Loir venait de partir. Les berlines Lecomte ne partiraient pas. La diligence du Bourbonnais ne passerait que tard dans la nuit et serait peut-être pleine. On n'en savait rien. Quand il eut perdu beaucoup de temps à ces informations, l'idée lui vint de prendre la poste. Le maître de poste refusa de fournir des chevaux, Frédéric n'ayant point de passeport. Enfin, il loua une calèche, la même qui les avait promenés, et ils arrivèrent devant l'hôtel du commerce, à Melun, vers 5 heures. La place du marché était couverte de faisceaux d'armes. Le préfet avait défendu aux gardes nationaux de se porter sur Paris. Ceux qui n'étaient pas de son département voulaient continuer leur route. On criait. L'auberge était pleine de tumulte. Rosanette, prise de peur, déclara qu'elle n'irait pas plus loin et le supplia encore de rester. L'aubergiste et sa femme se joignirent à elle. Un brave homme qui dînait s'en mêla, affirmant que la bataille serait terminée d'ici à peu. D'ailleurs, il fallait faire son devoir. Alors, la maréchale redoubla de sanglots. Frédéric était exaspéré. Il lui donna sa bourse, l'embrassa vivement et disparut.
Arrivé à Corbeil, dans la gare, on lui apprit que les insurgés avaient de distance en distance coupé les rails, et le cocher refusa de le conduire plus loin. Ses chevaux, disait-il, étaient rendus. Par sa protection, cependant, Frédéric obtint un mauvais cabriolet qui, pour la somme de 60 francs, sans compter le pourboire, consentit à le mener jusqu'à la barrière d'Italie. Mais à 100 pas de la barrière, son conducteur le fit descendre et s'en retourna. Frédéric marchait sur la route quand tout à coup une sentinelle croisa la baïonnette. 4 hommes l'empoignèrent en vociférant. « C'en est un! Prenez garde! Fouillez-le! Brigand! Canaille !» Et sa stupéfaction fut si profonde qu'il se laissa entraîner au poste de la barrière, dans le rond-point même où convergent les boulevards des Gobelins et de l'Hôpital et les rues Godefroy et Mouffetard. 4 barricades formaient, au bout des 4 voies, d'énormes talus de pavés. Des torches çà et là grésillaient. Malgré la poussière qui s'élevait, il distingua des fantassins de la ligne et des gardes nationaux, tous le visage noir, débraillé, hagard. Ils venaient de prendre la place, avaient fusillé plusieurs hommes. Leur colère durait encore. Frédéric dit qu'il arrivait de Fontainebleau au secours d'un camarade blessé, logeant rue Belfond. Personne d'abord ne voulut le croire. On examina ses mains, on flaira même son oreille pour s'assurer qu'il ne sentait pas la poudre. Cependant, à force de répéter la même chose, il finit par convaincre un capitaine qui ordonna à 2 fusiliers de le conduire au poste du Jardin des Plantes. Ils descendirent le boulevard de l'Hôpital. Une forte brise soufflait. Elle le ranima. Ils tournèrent ensuite par la rue du Marché aux Chevaux. Le Jardin des Plantes, à droite, faisait une grande masse noire, tandis qu'à gauche, la façade entière de la Pitié, éclairée à toutes ses fenêtres, flambait comme un incendie. Et des ombres passaient rapidement sur les carreaux. Les 2 hommes de Frédéric s'en allèrent. Un autre l'accompagna jusqu'à l'école polytechnique. La rue Saint-Victor était toute sombre, sans un bec de gaz, ni une lumière aux maisons. De 10 minutes en 10 minutes, on entendait « Sentinelle, prenez garde à vous !» Et ce cri, jeté au milieu du silence, se prolongeait comme la répercussion d'une pierre tombant dans un abîme. Quelquefois, un battement de pas lourd s'approchait. C'était une patrouille de 100 hommes au moins. Des chuchotements, de vagues cliquetis de fer s'échappaient de cette masse confuse, et s'éloignant avec un balancement rythmique, elles se fondaient dans l'obscurité. Il y avait au centre des carrefours un dragon à cheval, immobile. De temps en temps, une estafette passait au grand galop, puis le silence recommençait. Des canons en marche faisaient au loin sur le pavé un roulement sourd et formidable. Le cœur se serrait à ces bruits différents de tous les bruits ordinaires. Il semblait même élargir.